Ces trois réalités essentielles définies par Paul, la foi, l'espérance et l'amour, qui sont les trois seules dont Paul dit qu'elles durent pour l'éternité, sont tellement importantes que les théologiens leur ont donné un nom et on les appelle, pour une raison que j'ignore, les trois vertus théologales. Elles sont très belles et bonnes et elles permettent certainement de définir au mieux ce qu'est la vie du chrétien, ce que sont les promesses de l'Évangile. Je dirais que cette foi, cette espérance et cet amour, c'est une sorte de trinité de la vie chrétienne, c'est-à-dire les trois dimensions fondamentales d'une même réalité qui est la vie spirituelle du croyant et son engagement dans le monde. Le seul problème, c'est que si on est à peu près tous d'accord là-dessus, ces trois mots, foi, espérance et amour, génèrent de tels contresens qu'on a parfois un peu de peine à s'y retrouver. Alors essayons de reprendre cela un petit peu à la base. Tout d'abord, la foi. Je crois que c'est le point sur lequel il y a le plus de contresens aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de nos contemporains, la foi représente une sorte de démarche un peu irrationnelle ou affective, qui aurait trait au sentiment religieux, c'est-à-dire le sentiment de la présence de Dieu en soi, l'impression d'être aimé, le sentiment que Dieu est là et qu'on peut lui parler, cette capacité à prier, à être ému d'un point de vue religieux. Or, je ne conteste pas que cela existe et qu'il y a heureusement une dimension affective dans la vie du chrétien. Le seul problème, c'est que dans la Bible, la foi ne désigne absolument pas cela. C'est tout. Dans la Bible, la foi désigne tout autre chose. La foi désigne une démarche de la volonté et de l'intelligence. Et ça, on s'en rend compte assez facilement parce que je suis obligé, une fois de plus, de vous faire une petite leçon d'hébreu. La foi, en hébreu, ça se dit émouna. Et émouna, c'est un mot hébreu que vous connaissez parce qu'il y a un autre mot de la même famille que vous utilisez tous les jours. Donc vous dites tous les jours le mot hébreu de la foi. Et ce mot, c'est Amen. Amen, que l'on dit à la fin de chaque prière, c'est le mot de la foi. Or, que veut dire Amen ? Alors si vous avez eu un peu d'éducation religieuse, vous direz que cela signifie « ainsi soit-il ». Eh bien, c'est faux. Amen, ça veut dire « c'est vrai ». D'ailleurs, on trouve ce petit mot dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, vous savez, plusieurs fois, Jésus dit « en vérité, je vous le dis ». Dans le texte, il y a écrit « Amen, Amen, je vous le dis ». Et donc, « Amen », ça veut dire « c'est vrai, c'est certain, c'est sûr ». Et donc, la foi pour la Bible, vous voyez, n'est pas une sorte de sentiment évanescent qui pourrait aller et venir. La foi, c'est la certitude, c'est la vérité, ce que l'on croit vrai et ce à quoi on s'attache. Et ça, c'est très important, parce que si l'on se contente de dire que la foi serait le sentiment de la présence de Dieu, alors je comprends que certains disent qu'il n'est pas la foi. En effet, d'abord, tout le monde n'a pas la chance, je ne veux pas dire la grâce parce que je ne crois pas que ce soit à cause de Dieu que l'un l'est ou pas l'autre, mais la chance d'avoir ce sentiment extraordinaire, d'être dans la présence de Dieu, dans son amour, dans sa tendresse, dans sa douceur. Il y en a certains qui ne ressentent pas ça. C'est comme ça. Question probablement d'éducation, de nature, de sensibilité, peu importe. Et donc, faudrait-il exclure ces gens-là de la foi ? Eh bien, la réponse de la Bible, c'est non. Parce que la foi n'est pas le sentiment, la foi, c'est la décision. La foi, c'est cet acte par lequel je dis que je crois vrai une chose. Et là encore, la tradition chrétienne nous a, je crois, emmenés dans des impasses ou dans des fausses pistes, parce que l'on voudrait nous dire que la foi, ce serait de croire justement ce qui est absurde, contraire à la raison. Et on a cette formule épouvantable qui vient de l'Antiquité, qui se disait en latin « credo quia absurdum », je crois parce que c'est absurde. Et alors à ce moment-là, on ferait de la foi une sorte d'acte irrationnel qui consisterait à croire contre la raison des choses impossibles. Par exemple, que le monde ait pu créer ait pu être créé en 7 jours, qu'en frappant avec un bâton on puisse écarter la mer, qu'un enfant puisse naître d'une fille vierge, que l'on puisse marcher sur l'eau, multiplier les pains, ou que l'on puisse ressusciter, et d'autres choses apparemment difficiles à croire. Eh bien non, la foi n'a rien à voir avec tout cela. La foi, ce n'est pas de croire dans quelque chose d'absurde, mais c'est de croire que quelque chose est certain et est le fondement de notre foi. Thomas d'Aquin, qui connaissait bien la littérature biblique, donnait, lui, cette définition de la foi, qui est une définition parfaitement biblique, vous disais-je. Thomas d'Aquin disait « La foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité. » La foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité. Vous voyez, pas d'affectivité là-dedans, c'est un mouvement intelligent. Et cette vérité, il ne s'agit pas d'adhérer à la vérité scientifique, parce que ça n'est pas une question de foi. Je dirais que 2 plus 2 égale 4, ce n'est pas une question d'opinion, c'est comme ça. Et donc il n'y a pas de foi là-dedans. Si vous le savez, vous êtes dans la vérité, et si vous l'ignorez, vous êtes dans l'erreur. Donc il ne s'agit pas de vérité scientifique, mais il s'agit de vérité humaine. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est le fond de la vérité de l'être humain et de la vie humaine. Et autrement dit, c'est là que la foi intervient. Parce que qu'est-ce qui est important pour l'homme ? Jésus arrive et il propose un message. Il dit, vous savez, la chose essentielle pour vivre heureux, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est le service et c'est la grâce. Ça, c'est une vérité. Et on peut y adhérer ou ne pas y adhérer. Et la foi, c'est de dire, moi j'adhère à ça. Ce message du Christ, eh bien je crois que c'est vrai et je crois qu'il a raison. Et donc ma foi, c'est de dire, oui, Jésus a raison, aimons-nous les uns les autres. Commençons par nous pardonner et croyons que la chose la plus belle, la plus essentielle de notre vie, c'est ce que nous savons donner, c'est ce que nous savons partager, c'est ce que nous faisons pour rien, c'est-à-dire par grâce. Et ça, c'est un message, et j'adhère, et je dis que c'est vrai. C'est pourquoi il est parfois un peu à la mode de dire, vous savez, dans la foi, il y a du doute. Alors certains me disent, mais vous, monsieur le pasteur, est-ce que parfois vous doutez ? Eh bien, je vais vous dire, je ne doute pas. Je n'ai aucun doute, mais aucun, pas le commencement du début de la moindre once d'une rognure d'ongle de doute. Je crois dans l'amour, dans le pardon et dans la grâce. Et c'est tout. Et je ne me réveille pas le matin en me disant, puis-je encore prêcher l'Évangile ? Ai-je assez la foi pour faire cela ? Tous les matins, je me réveille et je me dis, il serait temps que l'humanité apprenne à s'aimer et à se pardonner. Je n'ai aucun doute là-dedans. Et donc ma foi, c'est un bulldozer dans ma vie. Rien ne l'arrête. Ou il faudrait un jour que tout à coup, je me mette à douter en disant, ah tiens, mais finalement, peut-être que ceux qui prêchent la haine auraient raison. Peut-être que l'égoïsme serait la meilleure façon de vivre. Non, je n'ai aucun doute là-dessus. Je crois dans l'amour, je crois dans la vie, je crois dans le bonheur, je crois dans la paix, je crois dans la grâce. Et c'est ça qui finalement, je dirais, peut donner sens à ma vie. Donc la foi, vous disais-je, c'est effectivement cette adhésion. Et ensuite, cette adhésion, elle n'est évidemment pas simplement une adhésion intellectuelle. Je pense bien qu'elle va engager tout mon être. Donc oui, je vais probablement retrouver cette dimension, je dirais, affective de la foi. Ce n'est pas une sorte de foi philosophique, mais elle va engager tout mon être en disant, oui, l'amour, j'y crois tellement que je le vis avec joie, avec bonheur et enthousiasme. Et l'amour, c'est la chose la plus importante, donc j'aime aimer. Et ma foi, c'est de me dire, mais oui aussi, je suis aimé et je suis aussi gracié comme je peux donner la grâce. Et par conséquent, oui, certainement que cette foi doit finalement engager tout l'être, mais il y aurait un danger à ne pas lui donner cette structure intellectuelle dont je vous parlais. Alors il est vrai que certains, depuis leur plus tendre enfance, je dirais, ont la foi, enfin, dans le sens que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte d'évidence que Dieu est là. C'est une chance, et finalement c'est peut-être aussi une malchance. Parce que ceux qui ont trop la foi, finalement n'aiment pas trop qu'on réfléchisse à tout cela. Parce que ceux qui ont la foi disent « Oh, vous savez, moi, j'ai la foi du charbonnier, donc toutes ces interrogations, ces réflexions me dépassent, ne m'intéressent pas. » Ce qui est une façon détournée de dire « Elle risque de me déranger. » Parce qu'en effet, ceux qui ont trop la foi risquent de se contenter de leur petit cocon affectif et agréable et de faire de Dieu une sorte de doudou sympathique qui les accompagne dans leur vie. Mais ça, c'est dangereux. Parce que la foi du charbonnier, si elle peut être authentique et sincère, n'est pas nécessairement juste. Et il y a des fois du charbonnier fausses. Et autrement dit, la foi du charbonnier comporte la nécessité à un moment donné d'une réflexion pour l'encadrer et pour la réorienter dans un sens rationnel. Je ne parle pas évidemment de ceux qui auraient une foi du charbonnier complètement perverse, comme dans les sectes ou les mouvements intégristes, où il y a des gens qui ont une foi monumentale et qui finalement embêtent tout le monde, pour ne pas dire pire. Mais même si cette foi du charbonnier est sympathique, j'ai vu pastoralement trop de gens perdre la foi, justement, parce que leur foi n'était qu'une foi sans fondement, sans racine, sans réflexion, et le premier choc de la vie, la première épreuve, le premier mal, tout à coup, balaye tout cela, parce que cette foi n'était qu'un sentiment, et le sentiment peut facilement être balayé par la réalité. Donc oui, il y a des fois dangereuses, parce qu'elles sont fragiles. Il y a aussi des fois qui ne sont que des sortes de projections de sentiments enfantins. Vous savez, l'enfant, finalement, s'enfuit dans une sorte de monde imaginaire et devant la dureté de la vie, s'imagine une sorte de père sympathique, de Dieu tout-puissant, de monde un petit peu à part qui permet de retrouver un peu d'énergie et de tendresse. Bon, les enfants le font, mais écoutez, vous n'êtes plus des enfants. Et la foi ne doit pas être une projection infantile de ces fantasmes enfantins, ne doit pas être une sorte de fuite devant ces peurs enfantines. La foi n'est pas un comportement enfantin. Sinon, on tombe dans cette critique qui a été faite et qui est faite encore par certains psychanalystes et qui disent « mais votre foi n'est qu'une projection totalement infantile de vos désirs de toute puissance d'enfant ». Eh bien non, la foi n'est pas cela. Et il faut apprendre à dépasser justement cette tentation de la foi enfantine pour arriver à une foi adulte, c'est-à-dire qui sait nommer les choses, qui ne prend pas les vessies pour des lanternes et qui est capable de savoir exactement en quoi il croit. Donc la foi, vous disais-je, est définie dans l'Épître aux Hébreux comme étant la ferme assurance, la ferme assurance. La foi, c'est justement ce sur quoi je construis, et qui n'est pas non plus une. Je me méfie parce que je vous ai présenté cela comme une adhésion à une chose d'intellectuel. C'est pas non plus l'adhésion à une dogmatique ou à une doctrine. La foi n'est pas de croire comme il faut à la Trinité, à la divinité du Christ, à la virginité de Marie ou d'autres choses. La foi est tout autre chose que cela. Et c'est important de le dire, peut-être surtout en ce moment où notre Église, vous savez, s'interroge sur sa déclaration de foi. Et donc on essaye de savoir qu'est-ce qui est absolument essentiel. Et il y en a qui se battent en disant « je veux absolument que dans la déclaration de foi de l'Église, il y ait un chapitre sur la divinité du Christ ». Eh bien, la foi est tout sauf cela. La foi n'est pas une dogmatique. Et on le voit ça dans l'Évangile, plusieurs fois, Jésus, par exemple, devant un centurion romain qui n'est jamais allé au catéchisme, qui ne croit certainement pas comme il faut, ni au Dieu de Jésus-Christ, ni à celui d'Abraham, c'est un romain, il lui dit « ta foi est grande et tu as plus de foi que je n'en ai vu nulle part en Israël ». Eh bien, ce n'était pas une foi doctrinale, il ne croyait pas dans la Trinité, ce centurion romain, mais il avait compris quelque chose de vrai concernant les relations humaines. Et il a compris que lui, malgré son pouvoir, il se préoccupait de la vie de son serviteur qui ne valait rien, mais il veut le sauver. Et il est prêt à aller s'humilier devant un petit rabbi galiléen pour lui dire « toi, tu peux sauver mon serviteur ». Et il est celui qui a payé la synagogue pour les Juifs dont il n'avait rien à faire. Et donc Jésus voit que cet homme avait la foi dans la grâce, justement. Et il dit « c'est ça, la chose la plus essentielle. Et donc, tu as trouvé ce qui peut sauver des vies. Eh bien, la foi, c'est cela. La ferme assurance, ce qui est de plus solide, le noyau dur de ce en quoi l'on croit et qui nous permet de vivre. Et ça nous amène à la deuxième vertu, qui est l'espérance, qui est plus difficile à cerner et je crois souvent d'ailleurs on la confond, moi-même j'ai tendance à la confondre avec la foi, je vais vous dire pourquoi. Il y a d'abord un danger qui est de la confondre avec la notion profane d'espoir, bien sûr. L'espoir n'est pas l'espérance, l'espoir c'est l'idée que les choses vont peut-être s'arranger matériellement. Or, si comme moi vous avez plus de 21 ans, de toute façon, vous n'avez aucun espoir. Votre corps ne fait que se dégrader de jour en jour jusqu'au moment où on vous emmènera au cimetière. Voilà. Donc l'espoir, abandonnez-le, il n'y en a pas. Point. Par contre, il peut y avoir de l'espérance. Et même quelqu'un, je dirais, en train de mourir, peut n'avoir aucun espoir, aucune idée sur les chances qu'il a de s'en sortir, mais peut avoir le cœur rempli d'espérance. Parce que l'espérance, justement, ce n'est pas quelque chose qui concerne ce monde, mais c'est quelque chose qui concerne le monde spirituel. Et selon Paul, en effet, la réalité essentielle, c'est la réalité qui dépasse ce monde matériel et qui va au-delà, qui fait qu'on sait que même si on va mourir, nous ne sommes pas condamnés à la mort, mais promis à la vie. Donc oui, l'espérance, c'est par-delà, je dirais, cette foi dont j'ai parlé, qui est finalement, qui pourrait être quelque chose d'un peu humaniste, hein. L'espérance, c'est ce qui va nous tirer vers ailleurs, vers un autre monde, vers quelque chose d'autre, qui est de l'ordre de l'invisible. Et en effet, ce quelque chose d'autre qui est de l'ordre de l'invisible, c'est ce dont parle Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8. Il dit « L'espérance, c'est espérer dans ce que l'on ne voit pas. » Parce que ce que l'on voit, on n'a pas à l'espérer, ou on l'a ou on l'a pas, c'est quelque chose d'autre. Et il dit pour nous, nous comprenons de quoi il s'agit parce que nous avons reçu les prémices de l'Esprit. Et l'espérance, c'est de croire justement que ces miettes, ces prémices de l'Esprit, eh bien c'est les signes d'une réalité qui dépasse infiniment tout cela, et auquel je veux m'attacher. Et donc l'espérance, c'est ce qui m'amène vers autre chose, justement. Et les prémices de l'esprit, je les ai, parce que je ne vis pas en permanence dans la béatitude de la présence de Dieu. Mais de temps en temps, j'ai dans ma vie comme un éclair de quelque chose qui me remplit de joie, comme un sentiment, oui, d'être aimé, ou peut-être de la présence de Dieu, ou qu'il y a de l'amour possible, de la joie possible, de la lumière possible. Eh bien, ce sont ces prémices de l'esprit, ces miettes d'espérance sur lesquelles je vais vouloir construire, comme celui qui trouve le petit fil sur lequel il pourra tirer pour emmener tout le reste. Eh bien, c'est ça l'espérance. C'est s'accrocher à cette petite chose que j'ai ponctuellement et sur laquelle je veux construire toute ma vie. Et en même temps, pour comprendre ce que veut dire cette espérance, il faut comprendre... Deuxième leçon d'hébreu, pardon, c'est que dans l'Ancien Testament, en fait, il y a un seul mot pour dire l'espérance et la confiance. L'espérance et la confiance. C'est même ce même mot qui est traduit du coup dans les psaumes de temps en temps par espérance, de temps en temps par confiance et de temps en temps par sécurité. Comme dans le psaume 4, verset 9, où il est écrit, c'est magnifique, « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en confiance. » Alors, certains traducteurs mettent « tu me fais habiter en sécurité », ou c'est le même mot, « tu me fais habiter en espérance ». Voilà. Ou dans le psaume 16, « Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et même mon corps repose en confiance. » L'espérance, c'est ça. Cette confiance et cette espérance que nous sommes certes dans un monde violent, difficile, brutal, c'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Romains, et ce monde dont il dit qu'il souffre les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire qu'en gros ça va pas bien quoi. Mais j'ai confiance qu'il y a une autre réalité que cette réalité visible et difficile qui sans cesse me heurte, mais il y a une autre réalité qui est de douceur, de paix et de joie. Et ainsi espérer, c'est mettre sa confiance dans quelque chose. Comme dans le psaume 33, notre cœur met en lui sa joie à propos de Dieu et nous avons confiance dans son saint nom, ou nous avons espérance en son saint nom, ou encore le psaume 40, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, ou heureux l'homme qui place en l'Éternel son espérance. Et donc l'espérance, c'est la confiance, la sécurité, et de se dire il y a effectivement une ressource qui vient d'en haut, qui m'est donnée, et qui me permet de traverser l'intraversable, qui me permet de rester debout même au milieu des tempêtes, et qui me permet de trouver de la joie et de la paix même dans les pires des difficultés et des épreuves. Ça, c'est la confiance et l'espérance en Dieu qui me met en sécurité. Et je crois que, évidemment, c'est plus délicat que la première réalité dont j'ai parlé, la foi est finalement assez simple, hein. L'espérance... on ne l'a pas toujours, mais c'est aussi une démarche positive d'aller vouloir croire dans la paix et dans l'amour, mais pas seulement comme une réalité philosophique, mais aussi comme ce qui peut donner sens à ma vie. Et donc l'espérance, c'est de croire tellement dans l'amour et dans le don, de me dire, mais finalement, je n'ai besoin de rien d'autre. Et ma vie ne doit être que cela, et je n'attends de la vie des dons qu'à partir de l'amour et du service et de la grâce. C'est-à-dire que dans l'espérance, ce n'est pas un simple mouvement intellectuel comme je l'ai fait pour la foi. Il y a une sorte de saut, je dirais de saut, de choix et de dire « je m'y engage, j'y crois, oui je crois que c'est vrai, mais j'y vais et je m'y engage entièrement ». La foi, c'est l'engagement de tout l'être, l'engagement de tout l'être qui fait que je m'abandonne, je dirais, dans les bras de Dieu, et ce en quoi je croyais intellectuellement, je veux le vivre. Il y a donc dans l'espérance une sorte de dépréoccupation de soi-même, de façon de ne plus se soucier du lendemain, en pensant que le lendemain prendra soin de lui-même, et c'est d'avoir confiance dans cette providence divine. Et finalement, oui, c'est bien cela, cette espérance qui donne cette autre dimension dont je vous parlais. Et on en arrive donc à cette troisième vertu qui est l'amour, qui est la plus grande et sur laquelle j'ai moins de discours à faire parce que tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. Et simplement, elle est importante parce qu'elle est à la fois, je dirais, l'origine et la conséquence des deux premières. Elle est la cause et l'effet, tout simplement parce que l'amour, c'est avant tout de la relation. L'amour, c'est avant tout de la relation. Et donc, l'amour est la cause de la foi et de l'espérance, parce que c'est la manière avec laquelle je reçois un autre qui est Dieu. Et c'est aussi la conséquence, parce que c'est la manière avec laquelle, me sentant aimé et pardonné et convaincu de ces valeurs de l'Évangile, eh bien, je vais aller vers l'autre et me mettre en relation avec les autres. Et donc, c'est la manière avec laquelle je sais recevoir des autres et la manière avec laquelle je sais donner pour vivre concrètement ma foi et mon espérance. Vous savez bien sûr qu'il y a là encore un contresens important, mais j'imagine que vous n'en êtes plus là, qui est le même que pour la foi. Ceux qui font de l'amour un sentiment, ça c'est... Même les enfants de l'école biblique ont dépassé ça. Quand on leur dit « il faut aimer son ennemi », ils savent très bien qu'on ne peut pas se forcer à trouver sympathique quelqu'un qu'on ne trouve pas sympathique. Et donc l'amour de la Bible est tout sauf le sentiment de sympathie. Et quand un nos petits mariés qui gentiment prennent un Corinthiens 13 sur l'amour parce qu'ils s'aiment et qu'ils sont amoureux, c'est évidemment un contresens absolu. L'amour que l'on célèbre dans un Corinthiens 13, c'est pas l'amour des amoureux, c'est l'amour que je dois avoir même pour mes ennemis. On ne me demande pas de faire l'amour avec mes ennemis. Donc c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, vous savez qu'en grec, il y a deux mots, il y a eros et agapé pour dire l'amour. Eros, c'est justement l'amour des amoureux, l'amour passion, l'amour qui est un désir de l'autre. Et cet amour-là, il est tout sauf éternel. Il est passager, il est volage, il est insaisissable, il est incontrôlable. Donc bon, amusez-vous avec l'amour si ça vous plaît, c'est sympathique et distrayant, mais ce n'est pas l'amour dont il est question dans la Bible, qui est l'agapé. Et agapé, ce n'est pas l'éros, c'est l'amour fraternel, c'est-à-dire c'est l'ouverture à l'autre, une façon de se tourner vers l'autre et de le recevoir comme sujet, justement, de le recevoir comme sujet, et d'accueillir l'autre comme il est, lui, comme un sujet capable de dire « je ». Ce que ne fait pas l'éros. L'éros, il se fiche complètement du sujet. L'autre n'est qu'un objet de projection, c'est un porte-manteau à fantasme. L'amour de l'agapé de la Bible, je fais de l'autre un sujet. Donc les mariés ont peut-être raison de prendre ce texte, parce que c'est ce vers quoi ils sont invités à aller, à reconnaître l'autre comme un sujet qui n'est pas moi, et qui n'est pas que la projection de mes désirs, mais que j'accueille comme une personne. C'est ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire comme un autre toi-même. Il y a moi et il y a un autre moi avec lequel je dois dialoguer pour être en relation avec l'autre. Alors nos vieilles traductions, pour éviter la confusion, parfois avaient remplacé le mot amour par le mot charité. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. L'idée était bonne, ça évitait la confusion avec l'amour de Roméo et Juliette. Mais la charité aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est de donner un euro à un SDF et il y a une sorte de teneur, de pitié, de culpabilité. Donc on remet le mot amour avec les risques de contresens, mais donc il faut bien comprendre de quoi il s'agit. L'amour, ce n'est pas un sentiment, une fois de plus. Mais c'est une façon de se mettre en relation avec l'autre. Ce que Jésus nous dit, ce que je vous commande, c'est d'aimer. Ce que je vous commande, donc ce que je vous demande, c'est un ordre. Bon, et par contre, je crois qu'on peut apprendre à s'ouvrir à l'autre, à ne pas rester replié sur soi-même, parce que l'amour, c'est le contraire de l'égoïsme ou la préoccupation de soi-même. C'est ce que dit Paul. Ne vous préoccupez pas de vos propres intérêts, mais que chacun considère aussi celui d'autrui. Voilà, c'est la base de l'amour. Ou alors quand il dit dans Philippiens 2, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà, c'est simple, ce sont les expressions de Paul. Et donc cet amour, il concerne l'autre, c'est-à-dire le prochain. L'autre, petite distinction que j'aime, petite coquetterie psychanalytique, vous savez que Lacan distingue l'autre avec un petit a de l'autre avec un grand a. Alors le petit autre, c'est l'autre qui n'est pas moi mais qui est comme moi. Et donc je suis invité à aimer l'autre, c'est-à-dire celui qui me ressemble mais qui n'est pas moi, donc je m'ouvre à mon prochain. Mais l'amour, c'est aussi s'ouvrir à l'autre, au grand autre avec un grand a, c'est-à-dire celui qui est même différent fondamentalement de moi-même. Alors ça, on peut le décliner en fonction de l'humanité. Il y a des gens qui sont très différents de moi et plus difficiles à aimer. Mais le grand autre, par définition, c'est Dieu, qui est le tout autre. Et aimer Dieu, c'est apprendre à sortir du terrestre, justement, pour s'ouvrir sur une autre dimension. Sortir, je dirais, du ras des pâquerettes pour aller vers quelque chose qui est radicalement différent de ce qui est ma propre nature. C'est cette dimension de l'invisible et du spirituel. Et aimer Dieu, c'est aimer l'amour, c'est accueillir l'amour, même pour apprendre à aimer. Et ça, c'est bien ce que dit Jean, puisque dans son épître, il dit « Nous aimons, pour nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés l'an premier. » Et donc l'amour, je vous ai dit, c'est à la fois ce que nous sommes invités à vivre avec les autres, mais aussi... C'est aussi la bonne nouvelle de ce que nous recevons. C'est aussi la façon avec laquelle Dieu nous accepte et nous reçoit. Parce que nous ne pouvons donner de l'amour que si nous trouvons nous-mêmes une source inconditionnelle d'amour. Et notre vie ne peut rayonner d'amour que si nous-mêmes, nous savons plein d'amour et capables de recevoir nous-mêmes un amour qui nous est donné. Et ainsi donc nous devons nous tourner, nous ouvrir vers ce Dieu d'amour infiniment patient, infiniment bon. Et nous pouvons écouter parce que nous sommes écoutés, et l'autre peut nous parler parce que nous savons parler à un autre, et nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés. Et donc oui, certainement l'amour, vous disais-je, c'est le premier et le dernier mot de l'Évangile, et de toute théologie chrétienne. L'amour, c'est la bonne nouvelle du salut gratuit, c'est la grâce qui nous est offerte d'un point de vue immérité. C'est ce Dieu qui, justement, s'il est en relation avec nous, c'est par amour, et non pas ni pour juger, ni pour punir, ni pour condamner, c'est simplement nous sommes aimés, a priori. Et l'amour, c'est aussi le commandement qui nous est donné. Donc c'est la réponse que nous devons donner à la grâce. Et c'est ce par quoi nous pouvons répondre à la grâce qui nous est donnée. Dieu est amour, nous dit la Bible. On pourrait dire aussi que si Dieu, personne ne l'a jamais vu, c'est ce que nous dit aussi l'évangile de Jean, et que nous ne savons qui il est, je peux dire très simplement que croire en Dieu, c'est tout simplement croire dans l'amour. Et c'est dans l'amour que j'ai foi et dans l'amour que j'ai espérance. Amen.